Bonsoir et merci d'être venus très nombreux d'écouter Delphine Horviller, l'auteur de Réflexions sur la question antisémite. Nous remercions tout particulièrement Jérôme Coumet, notre maire et son adjoint à la culture, Philippe Moine, pour l'organisation de cette soirée. Delphine Horviller, vous êtes l'une des trois femmes rabbins, on peut dire rabbines, en France, avec Pauline Beb, Florian Chinsky, et votre voix porte bien au-delà de la communauté juive. Si l'on doit retracer votre parcours, vous avez d'abord fait des études de médecine, puis vous vous êtes orientée vers le journalisme. À 27 ans, vous êtes journaliste à France 2, et de 2003 à 2008, vous devenez correspondante à New York pour Radio Communauté Judaïque. Là-bas, vous étudiez le Talmud dans un des cercles juifs très ouverts en Amérique. C'est pendant ce séjour qu'un rabbin vous lance « Pourquoi tu ne deviendrais pas rabbin ?» Ce que vous preniez d'abord pour une plaisanterie fait son chemin et vous quittez tout pour entamer une formation de 5 ans aux États-Unis, car en France, on ne forme pas de femmes rabbins. Vous officiez au sein du mouvement juif libéral de France qui n'a que 2 synagogues sur les 500 que compte le culte. Aujourd'hui, Delphine Horviller, vous êtes militante féministe, essayiste, intellectuelle engagée dans le dialogue interreligieux. Vous avez signé en 2017 des 1001 façons d'être juif ou musulman avec Rachid Benzine, islamologue et écrivain, auteur de Lettres à Nour sur le radicalisme, qui a été joué au théâtre, et vous êtes allés tous les deux visiter les détenus en prison pour aborder autrement les questions religieuses. Raphaël Entoven dit de vous, Delphine défend des idées de tolérance, d'écoute, de respect, d'universel qui deviennent minoritaires à partir d'outils bibliques. Vous avez subi beaucoup d'attaques et reçu des messages de haine auxquels vous répondez par l'humour, votre arme préférée. Votre livre est sorti le 9 janvier, jour de commémoration de l'attentat de Hypercacher, et propose des outils pour échapper au repli identitaire. Vous êtes remonté au texte biblique pour comprendre les racines d'une haine qui a été au fil des siècles théologique, raciale, puis territoriale. C'est un ouvrage à la fois percutant et savant, où l'humour est très présent, un humour qui permet souvent de mieux rendre compte de l'absurdité de l'antisémitisme et de son caractère irrationnel. On est donc impatient d'entendre Delphine Horviller expliciter cela et nous présenter son ouvrage. Je vous remercie.
Bravo. Merci. Merci à vous pour votre présence. Merci pour ces quelques mots d'introduction et merci, monsieur le maire, pour votre accueil. Est-ce que vous m'entendez ? On m'a prévenu qu'il fallait que je parle fort dans cette grande salle. Il y a une résonance particulière, on a envie de chanter ici, alors peut-être on chantera ensemble tout à l'heure. Effectivement, vaut mieux peut-être parfois rire et être capable de sourire en des moments où peu de choses dans l'actualité nous invitent à ça, mais il existe par le pouvoir des mots, le pouvoir des livres, le pouvoir de l'humour, et l'humour juif manipule ça bien souvent, une capacité de résilience dont on a peut-être particulièrement besoin en ce moment. Comment on apprend à se relever ? Comment on apprend à se re-verticaliser, se tenir debout ? Alors je vais vous dire quelques mots sur mon livre, mais je ne vais pas parler très longtemps parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant qu'on puisse engager un dialogue. Peut-être que vous avez des questions qui vont nous emmener dans des directions nouvelles. Moi, j'aime pas trop les longs monologues. Quand j'étais à l'école rabbinique, j'avais un de mes enseignants qui a dit un jour « On n'a jamais reproché à un rabbin de faire un discours trop court ». Et j'essaie de m'inspirer bien souvent de de cette phrase. Alors vous l'avez rappelé, mon livre sur l'antisémitisme, il est sorti au mois de janvier. Dans les semaines, les quelques semaines qui ont suivi la sortie du livre, en l'espace de quelques semaines, il y a des gens qui à Paris ont voulu nous donner un cours d'allemand et qui se sont mis à taguer des vitrines Jude, vous vous souvenez peut-être, dans le 4e arrondissement. Il y a d'autres gens qui ont jugé bon de balafrer ces images tout près d'ici, du visage de Simone Veil dessiné sur des boîtes aux lettres. Les balafrés d'une croix gammée. Il y a des gens qui ont jugé utile de couper les racines d'un arbre à la mémoire de Ilan Halimi. Voilà, tout ça s'est passé précisément les semaines qui ont suivi la sortie de mon livre. À tel point que je me suis demandé si c'était pas un coup du lobby sioniste ou juif, je ne sais pas. D'avoir voulu assurer la promotion de mon livre, booster les ventes, je ne sais pas, j'en plaisante, mais malheureusement vous l'entendez, cette recrudescence de tout ce discours complotiste, d'une façon qui n'est absolument pas surprenante, et là, au moment où monte l'antisémitisme, parce que ces phénomènes complotistes, cette volonté de donner au monde et à ce qui nous arrive une explication, un coupable, une façon de se déresponsabiliser de tout ce qui pourrait avoir quelque chose à voir avec notre façon d'être au monde, notre responsabilité tout simplement, marche toujours main dans la main avec la montée de l'antisémitisme et ce qu'il raconte toujours, non pas du juif, parce que l'antisémitisme ne dit rien du juif ou des juifs, mais tout ce qu'il dit de celui qui énonce cette haine et de la société qui le tolère, qui le permet, qui le nourrit et qui parfois l'encourage. Alors ça fait des années que je m'intéresse à cette question de l'antisémitisme, vous en doutez, c'est lié à l'actualité. On a vécu depuis le début des années 2000 une montée en puissance à la fois d'un certain discours dont la particularité est très rapidement de déboucher sur un passage à l'acte et un passage à l'acte des plus violents auxquels on a assisté. On peut bien entendu citer ces dates qu'on a tous à l'esprit. Mais il y en a eu bien d'autres, mais les dates qui ont sans doute beaucoup marqué les consciences ces dernières années, il y a eu 2006 et l'assassinat d'Ilan Halimi, et 2012 et cette date terrible de Toulouse, et l'assassinat des enfants Sandler, de leur papa et de la petite Myriam Monsonego à Toulouse. Et puis voilà, d'autres noms, d'autres visages, Mireille Knoll, Sarah Halimi, tous ces noms qui ont hanté le narratif, qui ont parfois débouché sur des prises de conscience, mais parfois avec une certaine latence. Je crois que pour beaucoup d'entre nous reste en suspens cette question de 2012 et de Toulouse, et la question d'une latence de réaction, semble-t-il, de la société française, d'une incapacité à ce moment-là à être dans la rue. Il y a peut-être une sidération nationale, mais toujours est-il qu'elle n'a pas débouché, comme en 2015, sur une France dans la rue. Et tout ça a contribué peut-être en janvier 2015 à faire résonner certaines voix dans l'esprit de bien nombreux parmi mes amis qui se sont dit, lorsque la France est dans la rue en janvier 2015, après Charlie Hebdo et l'hypercachère, est-ce que s'il n'y avait eu que l'hypercachère, on aurait été là ? Et le fait que la France n'ait pas été dans la rue pour Toulouse apporte un élément de réponse qui a résonné comme une terreur pour beaucoup d'entre nous. Quelque chose de l'ordre d'un non-verbalisable ou d'un indicible. De quoi l'antisémitisme est le nom et de quoi la difficulté d'une nation à y réagir dans certaines situations est aussi le nom. Qu'est-ce qu'il dit de chacun d'entre nous, qui qu'on soit et d'où qu'on vienne. Alors, je me suis intéressée à cette question dans ce contexte, mais en réalité, je m'y suis intéressée depuis toujours, parce que je crois qu'on ne peut pas s'intéresser à la question du judaïsme et de l'identité juive sans se poser la question d'essayer de comprendre pourquoi, à travers l'histoire, ça a déclenché cette haine. Et pourquoi est-ce qu'on a, tout au long de l'histoire, ou presque, accusé les juifs de tout et de son contraire, parfois même simultanément. Vous le savez, on a accusé les juifs d'être trop riches ou trop pauvres, de manipuler le système ou de menacer le système, de contrôler le pouvoir ou de le mettre en danger. On les a accusés d'être trop capitalistes ou trop bolcheviques, d'être trop conservateurs ou trop révolutionnaires. On les a accusés d'avoir inventé le patriarcat et d'avoir inventé le féminisme. On les a accusés d'avoir créé Jésus et de ne pas y croire. Voilà, tout est son contraire et parfois même simultanément. Et à nouveau, ça dit toujours quelque chose, non pas du juif, ça dit rien du juif, mais ça dit toujours quelque chose de celui qui énonce cette obsession et qui fait du juif le nom, bien souvent, N-O-M, de ce qui l'empêche d'être lui-même. Ça, c'est une particularité de l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est une différence particulière avec le racisme. Entendons-nous bien, quand on dit que l'antisémitisme et le racisme ne relèvent pas d'un même système, on n'est pas du tout en train de dire qu'on crée une hiérarchie entre l'un et l'autre. Bien entendu qu'il faut combattre l'un et l'autre simultanément et avec la même force et la même détermination, parce que bien souvent de l'un découle l'autre. Mais il faut aussi être capable de différencier les territoires mentaux dont ils relèvent, ou parfois des rhétoriques dont ils se nourrissent, qui ne sont pas exactement les mêmes. Là où le racisme est bien souvent une xénophobie pure, c'est-à-dire une haine de l'autre parce qu'il est autre, le raciste, c'est celui qui voit l'autre comme étant moins que lui, pas comme lui, pas assez. C'est-à-dire, il accuse l'autre de ne pas avoir la bonne nationalité, le bon accent, la bonne couleur de peau, Enfin, vous pouvez le décliner à l'envi comme un complexe de supériorité par rapport à un autre qui me serait inférieur en quelque chose, physiquement ou culturellement, peu importe. Alors que l'antisémitisme, bien souvent, s'abrite à l'ombre d'une rhétorique qui est presque l'effet miroir de ce que je viens d'énoncer. C'est-à-dire que bien souvent, l'antisémite dit du juif qu'il a quelque chose qu'on aurait dû avoir, qu'il est là où on aurait dû être. Donc il y a dans l'antisémitisme bien souvent une accusation qui est la traduction d'une jalousie ou d'une envie ou de l'idée que quelqu'un d'autre m'a usurpé quelque chose qui aurait dû me revenir et qui génère en moi, comme non pas un complexe de supériorité, mais presque un complexe d'infériorité vis-à-vis d'un autre qui a quelque chose ou qui a quelque chose que j'aurais dû avoir ou que j'aurais dû être. Et une autre différence avec le racisme, c'est que le raciste est l'autre pour sa différence, alors que bien souvent dans l'antisémitisme, il y a un élément de haine, à la fois pour la façon dont l'autre est autre, et aussi la façon dont il est un peu trop le même. C'est-à-dire une haine pour cet étrange mélange, dont le juif est le nom, d'altérité et de mêmeté. Dans le livre, j'en parle, je me suis intéressée à ce moteur de recherche, pour Google pour ne pas le nommer, qui jusque il y a quelques années, jusqu'à ce qu'il y ait un procès, vous l'aviez peut-être expérimenté vous-même, quand vous tapiez sur le moteur de recherche n'importe quel nom d'un homme politique, d'une star du cinéma, mais ça pouvait être aussi des noms d'inconnus, immédiatement, le mot juif apparaissait dans la ligne de recherche. Pourquoi ça? Parce que simplement, il y avait un programme informatique sur le moteur de recherche Google qui avait remarqué que c'était les recherches les plus souvent effectuées. Qu'il y avait plein de gens dont le sport national, d'ailleurs je dis le sport national parce que c'était particulièrement vrai en France, il y avait plein de gens qui avaient cette passion de recherche Google, de la traque de celui qui face à vous est peut-être juif et vous ne le savez même pas. On nous cache tout, on nous dit rien. Peut-être que votre voisin l'est, peut-être que votre femme l'est, vous ne le savez pas. Peut-être que votre médecin, votre pharmacien, votre professeur d'université ou votre psychanalyste l'est et on ne vous a pas prévenu. Donc il y a quelque chose dans cette obsession-là qui en veut aux juifs pour être à la fois pas tout à fait comme nous, mais quand même vachement comme nous. Et donc, ce mot-là, ce mot ou cette identité-là, indéfinissable, devient le nom de cet étrange alliage entre de l'autre et du même, qui renvoie tout un chacun à l'altérité qui existe en lui, en nous, et qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, dont on n'a pas nécessairement envie d'être conscient. Et c'est ce qui m'a intéressée d'explorer dans ce livre, de percevoir que c'est comme si la tradition juive et les sages et la littérature ancestrale rabbinique avaient cette conscience, qui vient donc de très très loin, de ce dont la haine contre les juifs est le nom, qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec eux, mais qu'elle a beaucoup à voir avec la difficulté potentielle de tout un chacun à vivre avec le flou, le poreux, le mélangé, l'hybride, l'altérité ou l'altération. C'est un très joli mot en français, altération. C'est ce qui en nous s'abîme ou change parce qu'on a rencontré l'autre. Vous l'entendez ? On est altéré. Et à chaque fois, nous disent nos sages, que quelqu'un, un individu ou une famille ou un groupe ou une nation a une difficulté à penser ou à parler ce qu'il doit à l'autre ou tombe dans une obsession d'une définition de son identité à l'identique dans une reproduction du système. À chaque fois qu'une société ou un individu devient obsédé de la pureté de ses origines, de l'authenticité de son identité, eh ben vous pouvez être sûr qu'au coin de la rue, la haine du juif est là, et qu'elle prendra un nom ou un autre, une forme ou un autre. Mais c'est le nom comme le clignotant, le marqueur, qui révèle une faille existentielle de celui qui l'exprime, et qui est en train de raconter le problème qu'il ou elle a à vivre avec l'incomplétude, le manque, la faille, la mixité, la porosité, une problématique de frontières. Et on est une bonne semaine pour en parler, me semble-t-il. Vous l'avez sans doute remarqué autour de nous, que ce soit politiquement ou religieusement, on est dans un temps où on le vend en poupe tous les discours de frontières et les discours d'authenticité. Des discours qu'on va entendre résonner dans tous les extrêmes politiques, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, des discours extrêmement puissants de « voilà qui nous sommes, revenons à nos origines, revenons à un temps où nous n'avions pas encore été contaminés par une rencontre avec de l'autre, quel que soit le nom que porte cet autre ». Et ce discours de pureté des origines, ce discours d'intégrité originelle et d'authenticité, le lieu où il est le plus à l'œuvre, incontestablement, c'est au sein des religions, à travers leur voix fondamentaliste. Parce que, comme son nom l'indique, le fondamentalisme croit à une pureté du fondement. Croit qu'au fondement, c'est-à-dire dans son origine, il y a quelque chose de pur et de non contaminé. Et à chaque fois que ce discours politique et religieux monte, grandit, va croissant, eh ben, très souvent se développe un discours anti-juif, pas que anti-juif d'ailleurs, c'est ce que j'explore dans le livre aussi, de façon troublante, se développe parallèlement d'autres discours, dont un très célèbre, qui est le discours misogyne aussi, la montée de la perception du féminin ou des femmes comme étant un élément contaminant, un élément d'impureté. Et ça, vous l'entendez, ça résonne politiquement aujourd'hui, mais ça résonne vachement fort au sein des religions, incontestablement. Voilà. Alors, je me suis intéressée à ça, à toutes ces questions qui, bien entendu, ont déjà été traitées de bien des manières. Des livres sur l'antisémitisme, il y en a beaucoup, et il y en a des passionnants, et il y en a plein que je peux vous recommander. Des livres sur l'histoire de l'antisémitisme, les idéologies qui ont mené à la haine des juifs, des livres donc d'histoire, ou même parfois de sociologie, de politique ou de psychanalyse. Mais moi, j'ai pensé que ma valeur ajoutée, c'était tout simplement la valeur ajoutée de l'exégèse, la valeur ajoutée de la littérature rabbinique. Alors, entendons-nous bien, explorer les textes des rabbins et le Talmud et la Bible pour comprendre la haine des juifs, ça ne veut pas dire qu'on considère que les rabbins détiennent la clé ou l'explication de l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est jamais, en principe, à la victime ou à celui qui a été frappé ou attaqué d'expliquer les raisons de la haine qui s'est tournée contre lui ou contre les siens. Mais il m'a semblé pertinent d'explorer dans la littérature rabbinique comment, à travers l'exégèse, non seulement les rabbins avaient su mettre en garde les générations suivantes sans aucune naïveté, en leur disant « Ne vous imaginez pas que vous vous débarrasserez de ce phénomène, puisque, comme je viens de l'expliquer, il dit tout d'une crise existentielle que pourra traverser et que traversera encore incontestablement en bien des moments de son histoire des individus ou des groupes humains ou des nations. Vous n'allez pas vous en débarrasser, mais sachez identifier les moments qui, dans une société, sont particulièrement propices à ce que cette haine, à nouveau, se présente, à ce qu'elle soit grandissante. Soyez capable de les identifier. Et puis, et c'est l'autre élément intéressant de la littérature rabbinique, soyez capable de développer des outils de résilience. Il est donné à tout un chacun, et même au niveau d'une société, de trouver des outils politiques pour se relever, pour essayer, voilà, de se relever de ce qui pourrait nous clouer à terre, ou de faire qu'on raconterait notre histoire uniquement sur le mode de la compétition victimaire. Et ça aussi, c'est incroyablement à l'œuvre, aujourd'hui on le voit autour de nous, cette compétition victimaire, où finalement c'est comme si d'avoir souffert, ou de pouvoir raconter son passé, ou celui de son groupe d'affiliation, ou de sa communauté, on va dire, par le prisme de la douleur, donner à certains un cachet de noblesse. Or, d'avoir souffert, ça donne aucun droit. Je ne sais pas si ça donne des devoirs. Ça donne éventuellement une certaine sagesse, la sagesse d'avoir su se relever et de pouvoir en parler. Voilà. Et je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, est éventuellement un outil pertinent de l'exégèse rabbinique. Mais bien entendu, mon idée, ce n'était pas du tout d'écrire un livre pour les Juifs, c'était d'écrire un livre pour tout le monde, pour percevoir que la littérature rabbinique offre ses outils, mais qu'elle concerne chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que chacun peut s'en emparer pour les traduire. Donc dans le livre, je me suis livrée à une enquête d'exégèse rabbinique pour essayer de comprendre qui sont les haineux dans la Bible, et comment est-ce qu'on a lu ces textes, et comment est-ce qu'on a compris ces héritages haineux. Alors, je peux vous en dire maintenant quelques mots. On va faire un peu d'exégèse biblique. Ça n'arrive pas souvent à la mairie du 13e, je ne sais pas. Un petit peu de... Sortez vos Bibles. Voilà, je me suis intéressée à des personnages clés de la Bible que certains parmi vous connaissent peut-être. Dans la Bible, il y a un personnage, par exemple, qui raconte mieux, peut-être que n'importe quel autre, la haine anti-juive. C'est un personnage qui apparaît dans le livre d'Esther. Vous vous souvenez, le livre d'Esther dans la Bible, Esther, c'est donc une reine qui est juive, qui se retrouve la compagne d'un roi perse, Assuérus, qui ne sait pas quelle est l'identité de son épouse. Et voilà que surgit dans le royaume un bras droit d'Assuérus, un certain Aman, dans le livre d'Esther, qui a un projet génocidaire. Voilà, donc il vient exposer au roi son projet d'anéantir tous les juifs du royaume. Et d'ailleurs, il expose son projet génocidaire pratiquement dans les termes que je vous ai décrits tout à l'heure. C'est-à-dire, il dit oui, les juifs, ils sont partout dans le royaume, mais difficiles à identifier. Ils sont comme nous, mais ils ne sont pas comme nous. Ils ont nos lois, mais ils ont des lois à eux. Donc vous entendez, l'accusation de cet Aman dans la Bible, c'est qu'il accuse les juifs d'être comme les autres et pas comme les autres. Les mêmes et différents. La mêmeté et l'altérité. C'est déjà ce qu'énonce la Bible à travers le livre d'Esther. Et donc les exégètes, les rabbins, ils vont essayer de comprendre d'où vient exactement la haine d'Aman. D'où est-ce qu'elle surgit? Et alors ils vont remonter dans les généalogies. C'est vraiment une enquête qui est presque une enquête policière qu'on peut mener dans les textes. Et ils vont se rendre compte que Aman vient d'un autre personnage dans sa généalogie. Il est un descendant très lointain de Ésaü. Vous vous souvenez d'Ésaü? Ça vous dit quelque chose? Ésaü, dans la Bible, il a un frère jumeau qui s'appelle Jacob. Jacob et Ésaü, ils partagent la même matrice, le même utérus de leur mère qui s'appelle Rebecca. Et alors, Jacob et Ésaü, ils combattent in utero. C'est le seul récit biblique qu'on ait, à une époque où il n'y a pas d'échographie obstétricale. On sait quand même que Jacob et Ésaü se combattent in utero. Et pour les exégètes, ce combat in utero, il vient raconter le combat presque entre deux civilisations, deux façons d'être au monde. de leur point de vue. Ésaü, c'est une civilisation qui potentiellement va déboucher sur la haine du juif. Ésaü est comme porteur potentiellement de cette haine antisémite qui va rejaillir. Attention, ça ne veut pas dire que c'est génétique chez lui, on n'est pas du tout en train de parler de filiation génétique ou biologique, mais une sorte d'allégorie de ce que ce monde d'Ésaü peut générer, qui aura quelque chose à voir avec la haine de son frère jumeau, de Jacob, qui deviendra dans la Bible Israël, ce nom que les Juifs revendiquent comme étant un élément de leur identité. Et alors les rabbins, ils s'intéressent à ces deux personnages, à ces deux bébés qui combattent in utero. Et en fait, ça va devenir pour eux des allégories d'une façon d'être au monde. Et ils vont utiliser pour ça le récit biblique, et notamment des éléments du narratif dont vous vous souvenez peut-être de vos années de catéchisme ou de Talmud Torah, ou je ne sais pas, voilà, de ces études bibliques dont vous vous souvenez peut-être. Vous vous souvenez peut-être, par exemple, que Ésaü a la particularité d'être né poilu. Il est né couvert de poils, nous dit la Bible. Et alors les rabbins, ils s'intéressent vachement à ce détail anatomique. C'est quoi un bébé qui naît poilu? C'est quand même assez rare. Et de leur point de vue, ça vient raconter une identité déjà toute faite. Quand un bébé naît poilu, qu'est-ce que ça veut dire allégoriquement? Que cet individu est déjà pubère, c'est-à-dire qu'il est déjà devenu ce qu'il sera. C'est une identité qui n'est pas en développement, qui est déjà aboutie. D'ailleurs, en hébreu, le nom Ésaü, ça veut dire, c'est un participe passé du verbe être. En fait, Ésaü, il s'appelle en hébreu « tout fait ». Déjà tout fait, il est fini. Et immédiatement après cette naissance de ce type au poil, eh bien, naît son frère jumeau, Jacob, dont la particularité est de s'appeler, en hébreu, Yaakov, c'est un verbe au futur, qui veut dire « il suivra ». Donc il y en a un, le frère aîné, qui s'appelle « déjà fini », et le frère cadet, il s'appelle « à suivre ». Vous voyez ? Et c'est deux jumeaux dans une famille. Et tout dans leur existence raconte ça. Ésaü, c'est celui dont l'identité dit « celui que j'étais est celui que je suis est celui que je serai ». Ce que je serai est en fidélité, en conformité, en identité avec ce que j'ai toujours été. Alors que Jacob, son histoire, c'est tout l'inverse. Jacob, c'est un personnage dont le nom est un futur et qui un jour va changer de nom. Et va porter un autre nom, qui lui-même est un futur. Et au détour de ce moment où il gagne un nouveau nom, dans un combat avec un ange qui a été magnifiquement peint, vous pouvez voir la peinture, enfin, il y a plein de représentations de ce combat de Jacob avec un ange, il y en a un à l'église Saint-Sulpice, pour ceux qui connaissent cette magnifique représentation. Et bien, au moment où il gagne un nom, Jacob, sa hanche se déboîte, et on nous dit que pour toujours, il va boiter. Donc l'identité de Jacob, c'est une identité qui boite, c'est une identité bancale. Qu'est-ce que ça veut dire de boiter? Si je boite, ça veut dire que je ne peux plus jamais me tenir droit comme ça, que pour trouver mon équilibre, je dois faire ce mouvement. C'est-à-dire, je dois être en mouvement pour trouver mon équilibre. Et donc, vous l'entendez, ces deux jumeaux bibliques viennent raconter, non pas l'histoire de deux personnes, hein, bien entendu, mais pour les commentateurs, ces deux façons de se raconter son identité. Deux façons de se raconter son identité qui sont pertinentes pour chacun d'entre vous. Posez-vous la question, est-ce que vous considérez que votre identité est plutôt ésaüesque, c'est-à-dire que vous considérez que celui que vous êtes est celui que vous étiez et celui que vous serez, et qu'une fidélité identitaire est une fidélité à de l'inchangé dans votre existence, à de la stabilité, à ce qui se conserve à l'identique? C'est de là que vient le mot « identité ». Ou alors, est-ce que vous considérez que votre identité, elle est jacobienne? C'est-à-dire que vous n'avez pas fini de dire qui vous êtes. Vous n'avez pas fini de dire qui vous pourriez être. Et que votre identité, ce n'est pas de répliquer à l'identique, mais c'est à partir de là où vous étiez, d'opérer un balancement constant entre là d'où je viens et là où je pourrais aller. C'est une identité du peut-être, qui n'a pas fini d'être. Et les sages nous disent quelque chose qui, me semble-t-il, est très pertinent aujourd'hui. Cet affrontement entre deux identités, est une problématique politique, au sens noble du terme, une problématique politique récurrente et qui est tout particulièrement à l'œuvre aujourd'hui, où s'affrontent dans nos sociétés, philosophiquement, religieusement, politiquement, des voix d'Ésaü et des voix de Jacob, des voix qui disent « retrouvons une fidélité à ce qu'on a toujours été et qui ne doit pas bouger », et des voix qui disent « il existe un balancier, un mouvement, et la question c'est comment on vit avec, avec toutes les problématiques sans fausse naïveté que ça génère ». Et on est dans ce moment-là, voilà pourquoi il m'a semblé pertinent. J'avais dit que je ne ferais pas un monologue, mais c'est exactement ce que je viens de vous faire. Il ne faut jamais faire confiance au rabbin. C'était ma phrase antisémite. Alors, voilà, il me semblait pertinent de pouvoir donner des clés d'analyse traditionnelle juive pour faire entrer en résonance ces lectures traditionnelles avec, me semble-t-il, ce dont on a besoin tous, tout un chacun, aujourd'hui, bien entendu, pas seulement les juifs. Pourquoi ? Parce que on l'a dit mille fois, mais on va le dire encore, et ça vaut toujours mieux. Voilà, en le disant, l'antisémitisme, c'est pas le problème des juifs. C'est le problème de toute une société qu'il tolère. Parce qu'on le sait, en réalité, quand on s'en prend aux juifs, vous savez, Fanon disait quand on parle du juif, tend l'oreille parce qu'on est en train de parler de toi. En fait, quand on commence à s'en prendre aux juifs, c'est que très très vite, on va s'en prendre à tout le monde, à tous les autres avec un grand A. Et figurez-vous, et c'est un scoop, on est tous l'autre de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où vous serez l'autre de quelqu'un. Donc oui, ça commence avec les juifs, mais ça dit rien d'eux. Et ça dit tout de la société qui le tolère. Et d'ailleurs, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille de cela, et je terminerai là-dessus, c'est que, vous comprenez, quand on s'en prend au visage des morts, quand on s'en prend aux arbres qu'on a plantés à la mémoire des morts, quand on s'en prend, comme il y a quelques jours, à des jardins, comme dans le 15e arrondissement où a été profané le jardin, à la mémoire des enfants du Veldiv, ça dit bien que l'antisémitisme s'en prend aux juifs pas du tout pour ce qu'ils sont, puisqu'on s'en prend à eux même quand ils ne sont plus, même quand ils sont déjà morts. Donc ça relève d'une haine féroce, d'une brisure humaine et haineuse qui concerne dans son combat absolument chacun d'entre nous. Merci à vous. Alors, je serais ravie de répondre à des questions, même sur plein d'autres sujets. On peut parler de plein de trucs. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on pose souvent des questions sur aussi les femmes. La religion, vous en doutez, c'est un sujet qui m'intéresse un peu, voilà, mais sur ce que vous voulez.
Merci, bonsoir. Quelle est la réponse politique, justement, collective à apporter ?
C'est très compliqué de répondre à cette question parce que ces dernières années, incontestablement, il y a plein de réponses politiques qui ont été tentées, essayées. Il y a eu des plans, il y a eu des paroles publiques, des politiques, des paroles venant d'en haut, extrêmement fortes, et à vrai dire, même assez exemplaires au niveau des pouvoirs publics. Mais on se rend bien compte que ça suffit pas, parce que c'est pas une parole qui peut venir d'en haut du ciel. La question, c'est comment on fait pour que cette parole, elle soit portée aussi d'en bas dans la société, ce que les Américains appellent « bottom up », c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un plan politique de nos dirigeants, mais qu'il y ait quelque chose qui soit perçu comme étant le combat de tous. Alors, je pense que ça, incontestablement, l'éducation joue un rôle clé, c'est très tarte à la crème ce que je dis maintenant, mais il faut le dire quand même, l'éducation à la maison, l'éducation à une certaine écoute du langage antisémite qui est à l'œuvre ici et là, tout le monde doit tendre l'oreille, les enseignants, les parents, apprendre aux enfants à dépister les clichés quand ils surgissent. Je vais vous raconter une petite histoire très drôle qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Je suis intervenue dans un collège, dans le 18e arrondissement sur les préjugés antisémites. Et donc on a parlé de beaucoup des préjugés antisémites. Les enfants ont raconté qu'ils y avaient été confrontés, que voilà, autour d'eux ils avaient entendu ceci, cela, etc. sur les juifs. Et à un moment donné, il y a une petite fille toute mignonne qui lève la main dans le fond de la classe, adorable, avec des couettes, et elle me dit, j'ai du mal à raconter sans rire, alors je vais essayer. Elle me dit, pourquoi vous êtes radin? Et à ce moment-là, moi, j'entends, pourquoi vous êtes rabbin? Et donc je lui dis, bon, j'ai fait des études pour ça. Et je continue, je lui dis, voilà, on n'est pas très nombreux, mais bon, quand même, je suis partie, voilà, j'ai appris ça aux États-Unis, voilà. Et je vois, elle me regarde comme ça. Et au bout d'un moment, je comprends que c'était pas sa question. C'était extraordinaire, c'est un moment Woody Allenien. Et je lui dis, t'as dit radin? Elle me dit, oui, pourquoi vous êtes radin? Et c'était tellement incroyable, ce moment, que je lui ai dit, tu me donnes combien pour répondre à ta question? Mais pour répondre plus sérieusement à la vôtre, gratuitement, en fait, je pense que ça se joue là, mais ça se joue aussi dans un certain rapport au langage. Vous voyez, on vit dans un temps, et les réseaux sociaux y sont aussi pour beaucoup, de simplification à l'extrême du langage. Tout passe par des slogans, tout passe par du langage simplifié. Il faut que vous vous exprimiez en moins de, je sais pas combien, 280 signes. Tout est mis en place pour que on soit plus capable de raconter le monde de façon complexe. Et ça marche très très bien avec les théories du complot, avec toute cette façon de se raconter le monde comme ça, en hyper simplifié, en hyper explicite. Tout dans notre société est mis en place pour que on perçoive plus la complexité des messages, le double langage ou la complexité du monde. Par exemple, moi, depuis des années, je m'intéresse, alors vous allez dire, je parle complètement d'autre chose maintenant, mais je suis fascinée depuis des années par l'utilisation des points de ponctuation ou des émoticônes dans la façon dont les gens s'écrivent. Les gens se sentent obligés de surponctuer les messages qu'ils vous envoient. Par exemple, ils vous disent « mon chat est mort », et ils ajoutent un visage qui fait « oh ». Voilà, comme si on avait besoin de vous indiquer l'émotion que ça doit susciter chez vous quand je vous dis que mon chat est mort, ou bien j'ai eu le bac. Hey, 12 points d'exclamation. Ok. Mais ça raconte quelque chose à travers le langage d'un temps dans lequel on est, où tout doit devenir explicite, tout doit être simplifié, prémâché. Et je crois que pour lutter contre les préjugés, et en premier lieu les préjugés antisémites, il faut être capable de rééduquer à la complexité du monde, au double sens des mots, à tout ce qui est implicite et non explicite dans le langage, etc. Et ça, c'est très compliqué à faire. Il y a quelques années, Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, m'avait demandé, d'après moi, ce qu'il fallait introduire dans les cursus scolaires pour lutter contre l'antisémitisme, et je lui avais dit qu'il faudrait donner un cours d'humour juif. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas l'imposer au syndicat, je sais pas, mais je sais pas pourquoi, mais je parlais à moitié sérieusement. En fait, il y avait du sérieux dans ce que je disais. Ce que je veux dire par là, c'est que le propre de l'humour juif, pour ceux qui connaissent des blagues juives parmi vous, c'est que très souvent dans l'humour juif, un mot veut dire autre chose. Et en fait, le décalage de sens ou l'ambiguïté de ce que j'ai dit, mais que vous avez compris autrement, crée le rire. Et en fait, l'éclat de rire ou l'humour naît du décalage de sens, du double sens, de l'espace qu'il y a entre ce qu'un mot veut dire, mais ce qu'un mot peut dire. Le vouloir dire et le pouvoir dire ne sont pas exactement superposables. Et c'est ce qui crée un élément comique. Je raconte très souvent la même blague juive pour illustrer ça. Peut-être que certains parmi vous m'ont entendu la raconter 100 fois, mais bon, pas grave, vous ferez semblant de rire. C'est l'histoire de deux juifs qui sont devant un établissement de bain public. Voilà, il y en a un qui dit à l'autre « t'as pris un bain ?» Et l'autre lui dit « pourquoi il en manque un ?» Et en fait, vous l'entendez, ce décalage de sens, c'est là où surgit une certaine jouissance du rire, une possibilité. Et je crois que Il y a quelque chose qui est à l'œuvre aujourd'hui de l'ordre de ce combat-là qu'on doit mener, qui est très compliqué à faire, mais qui est une responsabilité de toute personne mise en fonction d'enseignement, que ce soit des leaders religieux, des enseignants ou des parents. Comment est-ce qu'on se reconnecte avec la complexité du monde et du langage dans un temps où tout se parle sous forme de slogans autour de nous? C'est un vrai problème de... Et je suis contente d'en parler dans une mairie, parce que je pense que c'est une responsabilité vraiment politique, de comment on change notre façon de... Et surtout, enfin, les réseaux sociaux ne nous aident absolument pas à aller dans cette direction, incontestablement. Et puis, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la nécessité que ça vienne d'en bas, moi j'ai eu l'occasion de le dire à pas mal de dirigeants politiques ces derniers temps, je pense qu'il faut trouver moyen d'impliquer dans ce combat, notamment vis-à-vis de la jeunesse, des leaders de la jeunesse. Je pense qu'il est urgent que s'impliquent dans ce combat collectif des youtubeurs, des footballeurs, vous voyez, des gens qui sont pour la jeunesse aujourd'hui, qui ont entre guillemets une puissance de frappe bien plus forte que celle que n'importe quel essayiste ou homme politique pourrait avoir. Moi j'ai un fils de 13 ans, mon fils aîné. Je pense qu'un mot de Mbappé vaut incontestablement beaucoup plus que n'importe quelle parole de sa mère, mais même de n'importe quelle parole politique. C'est quelque chose qui est en jeu, je pense, ou en tout cas qui est entre les mains aujourd'hui de certains leaders de la jeunesse, et ce serait formidable que ça s'active d'une manière ou d'une autre.
Oui, simplement une petite remarque. Il y a une étude qui a été faite par des musicologues. Ça va mieux comme ça. Il y a une étude qui a été faite par des musicologues qui a permis de rapprocher la musique klezmer avec la musique tzigane. Ensuite, ils sont allés un petit peu plus loin et se sont aperçus qu'en fait, bon, comme vous le savez, les Roms, tziganes, ont une origine indienne. Et ils sont allés donc en Inde et ils se sont aperçus qu'il y avait un rapport étroit entre la musique indienne et la musique klezmer. Je trouve ça très intéressant. Et plus particulièrement, dans la musique indienne, la musique des intouchables. Et là, je me suis dit, tiens, il y a une image qui est assez intéressante entre les intouchables et les juifs. Je voulais savoir ce que ça vous laissait penser.
Mmh. Ah, je ne savais pas du tout, vous m'apprenez quelque chose, mais je trouve ça très intéressant de réfléchir à ça, plutôt à ce qu'a pu être la créativité partagée de gens qui ont été mis en position d'être à part, qu'ils l'aient revendiqué ou qu'ils y étaient placés de force. De quelle manière ça va avoir un impact sur qui vous êtes? Alors là, on en revient à des théories d'une certaine manière sartriennes, on va dire, par exemple, dans Réflexion sur la question juive, Sartre. Sa théorie, vous la connaissez, c'est que le juif est créé par l'antisémite ou par l'antisémitisme. Et moi, ce qui me semble intéressant dans la théorie de Sartre, c'est que c'est à la fois vrai et à mon sens faux. C'est-à-dire que ce qui est vrai dans la théorie de Sartre, c'est que incontestablement, ce qui vous est arrivé, et bien souvent ce dont on vous a frappé, ou les haines qui se sont abattues sur vous, ou les stigmatisations dont vous avez été victime, ont contribué à faire de vous qui vous êtes. Et ça, le judaïsme le démontre très bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, même dans les rites du judaïsme, dans ses rituels, dans son calendrier, le calendrier des fêtes, et tu as un témoignage constant d'une capacité qu'a eu le judaïsme à répondre à ce qu'il a rencontré, mais aussi à ceux qui l'ont frappé, d'une certaine manière. On a intégré des clichés pour presque par moments les revendiquer. Alors, dans le cas de l'humour juif, pour en rire, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même, si on parle une seconde, les blagues juives, elles jouent sur les mots, mais elles jouent aussi très souvent sur les clichés antisémites. C'est souvent des blagues antisémites racontées par des juifs. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'on intègre de ce dont l'autre vous accuse, mais votre situation d'avoir été l'outsider de l'histoire, tout à coup, vous allez le revendiquer dans un processus créatif, parfois musical, mais ça peut être de la création littéraire, une façon d'être au monde qui fait que grâce à ça, vous vous en relevez. C'est un outil de résilience fort de dire, voilà, ce qui aurait pu me clouer au sol
m'exterminer, me tuer, me détruire, eh ben j'en fais précisément un outil de vie, un outil d'avancée, c'est-à-dire un outil créatif. Il y a une célèbre blague juive, et après promis j'arrête avec les blagues, qui dit que toutes les fêtes du calendrier juif, elles se résument en trois phrases. Ils ont voulu nous tuer, on a été sauvés, quand est-ce qu'on mange ? Et en fait la troisième phrase, elle est critique, parce qu'elle dit qu'on ne va pas laisser les deux premières tout dire de qui on est. Mais à partir des deux premières, vroups, on fait une petite galipette qui fait qu'on reste debout et qu'on regarde tout à coup, pas juste derrière, mais de ce qui s'annonce au coin de la rue ou au coin de l'assiette. Voilà. Et donc je pense que c'est très intéressant à creuser ces pistes de... Enfin moi ça m'intéresserait beaucoup de lire un article là-dessus sur les rapports dans la musicalité. Et ça doit aussi nous inspirer, je trouve, aujourd'hui dans... La question des influences, par exemple, vous évoquez en fait la question des influences potentiellement les uns sur les autres. C'est une question passionnante parce que c'est une question qui, quand elle est étudiée historiquement avec sérieux, permet de contrer tous les arguments les plus grotesques et absurdes de définition identitaire pure. Vous savez, tous ces gens autour de nous qui sont obsédés par la pureté de leurs origines, par le fait qu'au début, ils n'avaient pas été contaminés par l'autre. Tous ces discours de la pureté sont des mensonges historiques. C'est des fictions narratives. Alors, j'ai rien contre les fictions narratives. On a tous besoin de fictions narratives pour vivre. Mais encore faut-il être conscient que ça ne dit pas la vérité. C'est des fictions. On se raconte son histoire comme ça. Mais aucune de nos traditions, et surtout pas nos traditions religieuses, ne sont pures à l'origine. En fait, on a opéré un petit décalage par rapport à un monde ancien dont on vient. Alors vous pouvez autant que vous voulez vous raconter qu'au début vous n'avez rien à voir avec lui, mais c'est pas vrai. Il y a plein de traces, il y a plein de cicatrices, de traces, de rebuts, des choses qui restent là et que souvent vous n'avez pas envie de voir. Et d'ailleurs c'est pas sans lien, je m'éloigne un peu là de votre question, avec certains éléments de la haine antisémite, notamment des haines anti-juives théologiques à travers l'histoire, de tous ces moments où finalement les juifs ont posé problème à d'autres parce qu'ils avaient quelque chose à voir avec leur origine. Le fait que les chrétiens et les musulmans revendiquent d'être les enfants de la même révélation pose un problème théologique parce que si vous vous revendiquez de la même révélation, alors qu'est-ce que vous faites de celui qui a été le premier à l'entendre ? Comment vous allez vous raconter l'histoire de vos origines si à l'origine cette révélation a été donnée à quelqu'un d'autre en votre absence ? Très compliqué. Donc tout ça a nourri, on le sait, par exemple au sein de la chrétienté, jusqu'à Vatican II, toute cette théorie, ces théories théologiques du grand entre guillemets, remplacement, c'est-à-dire de cette idée que les chrétiens étaient devenus le verus Israël, le vrai Israël, et que le peuple déicide avait rompu l'alliance, ou que Dieu avait rompu l'alliance avec le peuple des Hébreux pour la contracter avec la chrétienté, a nourri un certain discours théologique de haine des juifs pendant des milliers d'années, jusqu'à la révolution théologique, ô combien d'ailleurs courageuse et à saluer, que constitue Vatican II. Et aujourd'hui, l'islam est pris dans des mêmes questionnements. Il y a encore au sein de l'islam beaucoup de voix qui disent que le Coran est la version authentique d'une révélation qui a été falsifiée par les juifs ou les chrétiens. Et donc on voit bien que c'est une problématique théologique qui peut être, nourrir la haine des juifs très, très facilement et qui exige une forme de réforme ou de courage théologique.
Oui. Désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez répondu au début.
J'y répondrai différemment, vous verrez.
J'en doute pas, et vous venez de le réaborder là. Vous avez écrit un bouquin avec Rachid Benzine justement sur les façons d'être juif ou musulman. Ça évoque plusieurs sujets. La première, c'est comment vous expliquez ce qu'on pourrait appeler le nouvel antisémitisme, qui n'est pas forcément uniquement musulman et qui frappe surtout les banlieues et qui est quand même un nouvel antisémitisme par rapport à l'antisémitisme historique. En même temps, comme dirait l'autre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport entre, c'est paradoxal ce que je vais dire, entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Le terme est peut-être pas extraordinaire, mais il a fini par s'imposer. C'est-à-dire et que dans l'islamophobie, il y a une confusion entre une origine ethnique, une religion, et puis une figure de l'autre qui est très différente. Et puis finalement, enfin, ça rebondit sur ce que vous venez de dire. Mais ça, c'est un débat théologique. Je pense que les questions qui sont posées sur le nouvel antisémitisme ou sur le rapport avec l'islam de la société française ne sont pas des débats théologiques, en fait.
En fait, tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là quand je parlais de la différence entre le racisme traditionnel et l'antisémitisme. En fait, ce qui a créé une confusion, me semble-t-il, ces dernières années, et d'ailleurs une latence dans la prise de conscience de ce nouvel antisémitisme, moi c'est un terme que j'utilise pas traditionnellement parce que je trouve qu'il est, il fait croire que cet antisémitisme-là n'a rien à voir avec des marqueurs ancestraux de l'antisémitisme qui pourtant sont tous à l'œuvre dans ce nouvel antisémitisme, c'est-à-dire que les marqueurs traditionnels rhétoriques de l'antisémitisme, c'est cette idée que les juifs contrôleraient quelque chose, qui serait que la main des juifs serait sur le monde ou sur le pouvoir ou sur les puissants, et qu'il y aurait donc un contrôle juif de la situation, que les juifs auraient plus de chances, plus d'accès à l'argent, aux sphères de contrôle, au pouvoir. C'est à l'œuvre et ça l'a toujours été. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ces motifs ont été aussi à l'œuvre en marge des manifestations des Gilets jaunes, où tout à coup, la parole antisémite s'est libérée. Et bien sûr, elle disait rien du mouvement des Gilets jaunes. Elle n'était pas du tout emblématique, mais elle n'était pas non plus anecdotique. C'est-à-dire le fait que les juifs, la rhétorique anti-juive prenne une telle place en marge de ces cortèges, résonnait avec la façon dont elle a été exprimée ces dernières années de la part de ces nouveaux antisémites. Là où c'est important pour moi de parler de territoires mentaux différents dans le racisme et l'antisémitisme, c'est que justement le fait de les avoir tellement mis dans un seul panier toutes ces dernières années, la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme, le fait d'en avoir fait une seule lutte confondue, a empêché beaucoup de gens ces dernières années en France d'être capables d'entendre que l'antisémitisme pouvait venir de gens qui étaient clairement victimes de racisme et de discrimination raciste. Et en fait, il y a eu un empêchement de dire, ou une latence de parole, ou un malentendu permanent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas entendre que cette parole anti-juive ou antisémite, elle pouvait aussi venir de gens qui incontestablement étaient victimes de discrimination, et notamment de discrimination anti-musulmane. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'être clair dans les termes. En aucune manière, il y a une hiérarchie dans les combats, mais les combats ne relèvent pas de la même rhétorique, de la même prise de conscience. Voilà. Alors, j'ai beaucoup travaillé, moi, ces dernières années, c'est vrai, avec des islamologues ou des penseurs musulmans, aussi des gens qui sont dans la créativité. J'ai travaillé pas mal ces dernières années avec Ismaël Saïdi, que vous connaissez peut-être, qui est metteur en scène, qui travaille beaucoup dans les collèges, avec Rachid Benzine, avec qui j'ai écrit ce livre. Et puis, j'ai essayé de réamorcer des pistes de dialogue judéo-musulman que certains croyaient impossibles ou moribonds. Par exemple, l'année dernière, on a organisé un shabbaton dans ma synagogue, un concept nouveau qui est un shabbat pendant le ramadan. Et à ce shabbaton, on a invité donc à un office de shabbat pas mal de jeunes musulmans, et ensuite on a rompu le jeûne avec eux, et ça a donné lieu à des conversations bâton rompu et vraiment sans filtre, dont certains m'ont particulièrement marqué. Je me souviens notamment d'un jeune homme, un jeune musulman qui a pris la parole le soir du shabbaton à ma synagogue, et il m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit « L'antisémitisme, c'était la petite musique de mon enfance. » Et voilà, c'était la petite musique à la maison. Et moi, j'ai décidé que j'allais baisser le son. J'ai trouvé cette image incroyable, c'est-à-dire qu'à la fois assez déprimante et en même temps rempli d'un espoir à nul autre pareil, c'est-à-dire d'avoir un gamin de 16-17 ans qui vous dit voilà, c'était la musique, on le parlait autour de la table, voilà. Et se pose la question, et il m'a dit voilà, moi maintenant quand ça se parle chez moi, quand on met le disque, eh ben je sors de la pièce. Voilà. Vous vous rendez compte le courage que c'est pour un gosse de dire ça, voilà. Et je pense que c'est ces voix-là qu'il faut qu'on aide à faire entendre, mais ça implique d'avoir une certaine lucidité, voilà, une certaine lucidité sur le phénomène, être capable d'en parler. Il y a eu vraiment, j'insiste là-dessus, moi je trouve qu'il y a eu des latences de langage ces dernières années. Moi je me souviens très bien au début des années 2000 quand beaucoup de mes amis disaient il y a une montée de l'antisémitisme, mes amis juifs, très souvent les gens leur disaient oh, arrêtez votre parano, vous exagérez. Et puis, de toute façon, c'est une importation du conflit israélo-palestinien, c'est des tensions intercommunautaires. C'est-à-dire qu'on greffait tout plein de mots, tout plein de noms pour en fait sortir de notre responsabilité. Ça n'avait rien à voir avec la nation, une problématique républicaine, c'était une problématique intercommunautaire ou alors une importation du Proche-Orient, donc ça venait pas de chez nous. Et donc, il y a quelque chose qui nous empêchait de dire, qui nous empêchait de faire entendre. Voilà.
Oui, bonsoir. Alors, j'ai deux petites remarques. Une première sur la question musicale qui me touche tout particulièrement parce que je suis professeur de musique et que souvent il m'arrive de questionner les élèves sur comment nommer cette musique. Et justement, vous parliez tout à l'heure des termes. Et il s'arrive, c'est impossible d'arriver à trouver une musique qui soit exactement du jazz, mais sans aucune autre influence, exactement du reggae, exactement de la musique klezmer, de la musique indienne ou autre. Et du coup, en effet, par l'éducation, là c'est un exemple, mais en effet, avec la musique, très souvent on peut amener à questionner ça, questionner l'altérité, questionner que cette identité figée, elle n'existe pas. C'est quelque chose qui peut être intéressante pour conceptualiser des choses, parce qu'il y a quand même des concepts différents, des styles différents, mais en effet, elle n'existe pas. Ça, c'était pour apporter l'expérience pratique avec les élèves. Une autre remarque, peut-être, sur la question de l'antisémitisme aujourd'hui. Il y a une figure qui me semble assez intéressante à interroger, notamment sur le lien racisme, anti-musulman, racisme tout court, antisémitisme. C'est la question de Soros, aujourd'hui, qui est la cible favorite de l'extrême droite raciste et antisémite, en cela qu'il est puissant, il est riche, il est juif et il aide les migrants. Et d'ailleurs, à Pittsburgh, dans la synagogue, il y avait aussi toute une communauté qui venait en aide aussi aux musulmans et aux migrants. Et donc, peut-être. Alors après, je ne sais pas comment concrètement, hein, chacun à notre façon, mais peut-être que ces messages d'ouverture vers l'autre, que ça soit notamment avec les réfugiés, avec les migrants, peut-être que ces paroles d'ouverture vers l'autre peuvent être un bon moyen de désamorcer ces préjugés racistes et antisémites.
Oui, effectivement, merci de le rappeler. En fait, il y a quelques mois, vous en souvenez peut-être, quand cet assassin entre dans une synagogue à Pittsburgh pour y tuer les fidèles en prière et qu'on essaie de comprendre son geste, la façon dont il l'argumente lui-même, il dit que les juifs américains sont en train de faire rentrer des caravanes de migrants aux États-Unis, de l'Honduras, qui vont contaminer le sol américain. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il énonce ça, ce monsieur, en fait, sans doute sans en être conscient, en fait, il s'inscrit dans une rhétorique antisémite ultra traditionnelle, qui est la rhétorique de la contamination. Alors, pour les nazis, le juif, c'était la contamination. Vous vous en souvenez, on comparait les juifs à la vermine, aux maladies. Au Moyen-Âge, on accusait les juifs de contaminer les puits, etc. En fait, le juif, il est toujours accusé soit d'être lui-même un agent contaminant, soit d'être celui qui fait entrer l'agent contaminant. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a accusé tout au long de l'histoire, alors j'en parle dans le livre, il y a tout un chapitre là-dessus, on a accusé de ça les juifs et les sorcières, qu'on a beaucoup brûlées dans notre histoire. Vous savez qui, elles aussi, On les accusait toujours de manipuler les fluides, de créer de la porosité dans le monde, dans les esprits, de la contamination, des potions, des puits et que sais-je encore. D'ailleurs, si vous regardez les représentations traditionnelles, même dans les dessins animés de Walt Disney, des sorcières, elles ressemblent vachement à des caricatures antisémites. Elles ont toujours ce nez crochu, les cheveux ébouriffés, des oreilles et puis surtout des ongles et des mains crochus, exactement comme on représente les juifs dans les pires caricatures antisémites. Donc moi je me suis intéressée dans un des chapitres du livre au lien entre l'antisémitisme et la misogynie plus largement, ce qui est une constante de l'histoire aussi. En fait, on a toujours accusé les juifs et les femmes de la même chose, et de façon troublante, les moments où monte la haine antisémite, c'est toujours les moments où il y a dans la société un discours de menace de l'émancipation des femmes. C'est-à-dire quand on, tout à coup il y a une forme d'énoncé d'une peur, d'une crise de virilité, objective ou subjective, peu importe, qu'on perçoit tout à coup l'émancipation des femmes comme un danger, ou les femmes savantes comme un danger, on va dire, et ben, simultanément, la haine des juifs va croissant. D'ailleurs, on reproche aux juifs ce qu'on a reproché aux femmes, d'aimer l'argent, le pouvoir, de ne pas être fiable, d'être hystérique, et que sais-je encore. Toutes ces accusations qu'on porte contre les femmes, on les a portées simultanément contre les juifs. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent les agents de la fertilisation, les agents de l'ouverture à l'autre et de la possibilité que du nouveau surgisse parce que quelque chose de l'altérité s'est infiltré en nous. Je m'excuse pour ces images un peu crues comme ça, mais c'est ce que le féminin vient représenter souvent dans le système, la possibilité de l'ouverture à l'autre et du changement. C'est pour ça que dans les traditions les plus conservatrices, il faut couvrir les femmes, parce qu'en fait les femmes, elles représentent la zone poreuse, la zone frontalière, la zone liminale, ce qu'il faut tenir bien à la maison, à l'intérieur, dans la sphère de l'intériorité, parce que ça menace qu'il y ait une invasion, ça menace qu'il y ait une contamination de l'extérieur et une porosité de notre monde. Tout ça, voilà, est à l'œuvre. Et merci de votre témoignage aussi sur la musique. Moi, ça me semble essentiel de se rappeler qu'il n'y a rien qui soit authentiquement quelque chose. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Et c'est tout sauf une profanation de nos idéaux. C'est vrai, c'est au contraire notre richesse. Vous savez, ça m'amuse toujours, par exemple, quand les gens disent « Ah, ça, c'est typiquement français. » Vous voyez, quand je dis « Ah, ça, c'est typiquement français. » Et alors là, vous leur dites « Ah ouais, c'est-à-dire... » Et on fait la même chose dans le judaïsme, par exemple, les gens vous disent « Ah, ça, c'est typiquement juif. » Oui, et encore. Comment vous déterminez cet authentiquement comme si, ce typiquement comme ça ? Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger, alors il y a des choses que des gens perçoivent comme étant typiquement françaises. Je me souviens, quand je vivais aux États-Unis, un jour, on devait faire un jeu, les gens devaient imiter la première chose qu'ils pensaient quand ils pensaient à une nation. Pour la France, c'était quoi, d'après vous ? Intéressant, hein ? C'était, ils imitaient des gens en train de manifester, pas contents. Ça, c'est typiquement français. Mais c'est intéressant, ce typiquement quelque chose, parce qu'en fait, c'est toujours le produit d'un élément de vérité, mais mêlé à une histoire, à des rencontres, à des temps particuliers. Donc en fait, on est authentiquement nous quand on sait, voilà, ce qu'on doit au passé et à la façon dont ce passé a été perturbé en chemin, qu'il y a eu des sorties de route. On est qui on est parce qu'il y a eu des sorties de route sur le chemin.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais intervenir sur mes inquiétudes actuelles en tant que maman, en tant que citoyenne du 13e arrondissement, et sur la question de l'antisémitisme par rapport au religieux également, c'est-à-dire que l'antisémitisme ne va pas toucher que la personne religieuse. Alors effectivement, il y a eu l'attentat de Pittsburgh, il y a eu des synagogues qui dernièrement, dans le 92, qui ont été taguées, mais l'antisémitisme, c'est aussi toucher un patronyme qui n'est pas forcément religieux, et toutes ces questions-là m'interpellent quand, dans le 13e arrondissement, il y a une boîte aux lettres avec le portrait de Simone Veil qui est tagué d'une croix gammée. On a l'impression que ça se rapproche, que ça revient, effectivement, comme vous l'aviez dit au début de votre intervention, au milieu, il n'y a pas pour moi de nouvel antisémitisme, il a toujours été latent, il a toujours été là, il est culturel depuis l'affaire Dreyfus en France, mais il s'attaque, voilà, il s'attaque à des noms, à des patronymes, et pas seulement aux personnes qui vont pratiquer un culte. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal actuellement, c'est que par exemple je suis en salle de pause, il va y avoir des petites réflexions un peu qui vont arriver. On ne sait pas forcément que j'ai des parents juifs ou de la famille juive. Et là, les langues vont se délier et c'est constant. Et moi, quand je rappelle ça, je suis une militante de gauche, voire d'extrême gauche. Et j'ai l'impression que je saoule mes camarades, je saoule les gens dans les réunions de famille en disant, bah ouais, il y en a marre de ces petites choses qui sont mises les unes à côté des autres, qui sont juste insoutenables, des petites réflexions genre, les juifs, ils sont riches, ils ont deux frigos. Voilà, bah à cause de, voilà. Ah bon. si parce qu'il y a un frigo pour le lait, un frigo pour la viande. Mais et donc ils sont riches, ils ont deux frigos évidemment. Et c'est constamment et je trouve que ça se rapproche. Moi quand j'étais petite, ma maman, la première manifestation que j'ai faite, c'était la marche des beurs quand j'étais gamine. Ensuite, je suis descendue dans la rue après le cimetière de Carpentras. On était très nombreux, mais au fur et à mesure qu'il y a des événements pour c'était Mireille Knoll où on était moins nombreux et on est de moins en moins nombreux on a, comme je le disais précédemment, on a l'impression de gonfler tout le monde. Genre, oh, tu vas pas nous saouler avec tes juifs. Et c'est fatigant et inquiétant.
Ouais. Ouais, oui. Mais effectivement, il y a un phénomène d'abord où on s'habitue. Il y a un phénomène d'habitude et un phénomène aussi de protection. Les gens. Enfin, moi, quand j'essaie de m'expliquer pourquoi il n'y a pas eu en 2012 ce sursaut national au moment où on était au summum de l'horreur, c'est-à-dire des enfants assassinés devant une école ou dans une cour d'école en France, c'est quand même c'est insupportable. C'est le summum de l'horrible. Et en fait, je crois qu'il y a quand même... Je ne crois pas que les gens, quand ils ne sont pas sortis dans la rue, c'était par antisémitisme, hein, soyons clairs, hein, c'est pas parce qu'ils étaient antisémites, mais je crois qu'il y a quand même cette idée... que quand ça touche les juifs, une école juive ou un commerce juif, c'est encore un peu loin. Il y a quelque chose de l'ordre... On est encore un peu protégé. Et je, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de critiquer... Je pense que c'est un réflexe assez naturel de protection. C'est-à-dire qu'on se cherche des barrières, des protections qui fait qu'on se sent encore un peu en sécurité et qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on n'a pas envie de dire. Pendant que vous parliez, excusez-moi, j'ai regardé mon téléphone, pas pour voir si j'avais des messages, mais parce que j'ai photographié un article que j'ai lu dans le journal l'autre jour, que j'ai trouvé extraordinaire, qui raconte le déni. La scène s'est passée il y a quelques semaines, il y a un monsieur qui, dans la Somme, son voisin s'est introduit chez lui et a voulu l'assassiner parce que son voisin croyait qu'il était juif. Et il n'était même pas juif. Et son voisin s'introduit chez lui, lui donne quelques coups de couteau, et donc il s'en est sorti, heureusement. Mais la scène est racontée comme ça dans le journal, la PQR, la presse quotidienne locale. Selon plusieurs témoins, on parle de l'assassin, enfin de le potentiel, il aurait justifié son geste en disant qu'il voulait tuer un juif. Fin de la citation. Donc il est entré chez la personne, il la frappe 8 fois au total, à l'abdomen, au visage, etc. Et l'article continue de la façon suivante. Le voisin s'en tire grâce à l'intervention d'un tiers et à sa bonne prise en charge. Motif aggravant pour le suspect, il pourrait avoir agi par antisémitisme. Mais on n'est pas sûr. Hein. Voyez, on n'est pas sûr. Il voulait juste tuer un juif. Voilà. Et en fait, c'est constant. C'est-à-dire que quand vous commencez à faire attention à ça, c'est presque devenu un jeu. Moi, je prends en photo maintenant dans mon téléphone. J'en ai encore vu un hier. Voilà, on vous raconte un truc. On dit peut-être, mais même ce mot-là, on n'arrive pas à le dire. Il y a quelque chose qu'on veut pas entendre. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui le surentendent. Mais c'est normal. Je voudrais parler l'exemple de l'agression d'Alain Finkielkraut il y a quelques samedis de cela, lors d'un acte, je ne sais plus combien, des Gilets jaunes. Ça se passe un samedi après-midi. Moi, le dimanche matin, j'ouvre mon email et je vois que 50 personnes m'ont envoyé la vidéo de l'agression d'Alain Finkielkraut. Et les gens, ils me disent « Tu vas voir, on lui dit sale juif à la 12e seconde. Non, c'est à la 25e. Non, c'est à la 32e. Tends bien l'oreille à la 8e seconde. » Et donc tout le monde se met à écouter en boucle et les gens me disent « Je l'entends. » D'autres disent « Je ne l'ai pas entendu. » »« T'es sûr que tu l'as entendu ?»« Oui, je l'ai entendu. » Et donc, c'est intéressant parce qu'apparemment, d'après les enquêtes, ça n'a pas été dit. On lui aurait pas dit, on lui a dit sale sioniste, retourne chez toi. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est presque une blague juive. Quand on dit, vous voyez cette histoire du sale sioniste, on dit t'as rien à faire en France, retourne chez toi. Mais sale sioniste, t'as rien à faire là-bas non plus, n'y va pas. Alors bon, très bien, c'est ni ici ni là-bas, alors c'est où du coup. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça, cette parole-là, elle passe. Mais le sale juif, certains croient l'entendre, d'autres ne l'ont pas entendu. Quand il a été vraiment dit ces dernières années, on n'a pas voulu l'entendre. Quand il n'est pas dit, on l'entend quand même. Vous entendez bien, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, là, qu'ils se lèvent, qu'ils se dénoncent. Mais enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'un malentendu au sens littéral du terme. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas entendre. Et il y a des gens qui n'arrêtent pas d'entendre parce qu'on n'a pas voulu écouter ce qu'ils entendaient depuis des années. Vous me suivez ? Et donc tout ça crée une problématique d'écoute qui est très 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 compliquée à défaire. Voilà comment on fait pour vraiment entendre les mots, entendre ce qu'ils veulent dire. Et pour revenir à la problématique de complexité tout à l'heure, savoir ce qu'ils veulent dire. Et là, je fais une petite parenthèse sur la question de l'antisionisme qui hante aussi pas mal les discours. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose. Simplement, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il est antisioniste, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc systématiquement, j'interromps la conversation, je lui dis, c'est-à-dire, explique-moi, est-ce que ça veut dire que tu es contre la politique ultranationaliste d'un gouvernement actuellement en Israël ? Auquel cas, bah, bienvenue dans le club de pas mal de mes amis sionistes. C'est-à-dire que pourquoi inventer un mot pour dire qu'on est contre la politique nationaliste d'un État ? À ma connaissance, on n'a pas inventé un mot pour dire qu'on est contre la politique hongroise actuelle ou la politique polonaise ou la politique américaine ou coréenne, je ne sais pas. On n'a pas inventé un mot pour ça. Donc c'est quoi cet élément de langage ? Si l'antisionisme veut dire autre chose, alors qu'on m'explique ce que ça veut dire. Est-ce que c'est l'idée que les juifs n'auraient pas le droit à une souveraineté nationale et qu'ils seraient les seuls à ne pas y avoir droit alors que d'autres minorités menacées dans l'histoire ont pu y avoir droit ? Est-ce que ça veut dire qu'on milite pour les droits des Palestiniens ? Auquel cas, encore une fois, moi je connais beaucoup de sionistes qui sont très pro-palestiniens. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce mot ? En fait. Et moi, je pense qu'il ne faut plus rien laisser passer aujourd'hui. Il faut à chaque fois interrompre, sortir de la culture du slogan dont on parlait tout à l'heure et dire aux gens, quand vous employez un mot, efforcez-vous de savoir ce qu'il veut dire ou au moins d'être capable d'expliquer ce que vous entendez par là ou sinon, chut, taisez-vous. Voilà. Voilà une dernière question. Merci. Non.
Oui, c'était du sionisme que je voulais parler, vous en avez un peu parlé, peu importe, parce que avec Alain Finkielkraut, c'était quand même en tant que sioniste qu'il était insulté, et je crois quand même qu'il y a une tournure spécifique. Lorsque Alain Badiou parle du sionisme, il en parle comme un échec de l'universel. Pour lui, le judaïsme aurait dû se réaliser comme universalité dans son texte de Saint Paul, par exemple. Et donc, s'il ne se réalise pas comme universalité, on a une légitimité à être antisioniste pour lui. C'est comme cela que c'est traduit. Donc, j'ai l'impression que derrière une certaine gauche, c'est cela qu'il y a. Il y a une légitimité, puisque le judaïsme est conduit à être universel. Il aurait dû l'être. Ouais. Donc le droit à la nation, c'est pas pour eux.
Ouais. Et c'est intéressant parce que je vous remercie de citer Badiou, et en réalité un élément théologique, parce que c'est théologique cet énoncé-là. Il présuppose que les juifs auraient dû incarner, ou devraient incarner, une forme d'exemplarité. Ce qui est toujours intéressant, c'est un élément qu'on va retrouver à la fois dans l'antisémitisme et dans le philosémitisme, qui parfois est tout aussi suspect. Vous avez des gens qui ont une passion pour les juifs et qui les aiment particulièrement. Moi, je dis souvent aux gens, il n'y a pas de raison de détester les juifs, mais il n'y a pas de raison de les aimer particulièrement non plus. Enfin, je veux dire par là qu'il y a parfois quelque chose de suspect quand il y a cette attente. On en veut aux juifs qui auraient dû incarner l'universel, qui aurait dû montrer la voie, qui aurait dû, etc. Cette attente de l'exemplarité juive, moi je peux l'entendre quand elle vient des juifs. On peut avoir ce débat théologique en interne à chaque tradition. Est-ce qu'on doit avoir une exigence morale par rapport à l'autre, par rapport à notre histoire, etc. Mais c'est beaucoup plus problématique quand ça vient d'un autre qui, en plus, vous a démontré dans l'histoire qu'il n'a pas su assurer votre sécurité.
Oui, mais il y a aussi, d'un autre côté, des gens comme Hermann Cohen qui étaient réticents. Ou...
Oui, on peut tout à fait se poser la question de la volonté de s'inscrire dans une définition nationale pour les Juifs ou dans une définition religieuse ou sociologique. Est-ce qu'on appartient à un peuple, etc. Mais nier pour autant la légitimité de l'option nationale quand l'histoire européenne a démontré malheureusement au siècle dernier qu'elle n'a pas, et l'héritage des Lumières avec, a démontré qu'il n'a pas été en mesure de sauver les Juifs, invalide, en tout cas doit placer quiconque pense cela dans une posture d'absolue humilité qui malheureusement est rarement à l'œuvre dans le discours antisioniste, qui voudrait souvent dire aux Juifs qu'il a mieux compris qu'eux ce que ça voudrait dire d'être fidèle au message et authentiquement juif. Et à nouveau, on est dans un discours de l'authenticité. Personne ne peut dire ce que c'est qu'être authentiquement soi. Personne ne peut dire ce que c'est qu'être vraiment ou authentiquement juif, à part le prochain juif. Ça, c'est Amos Oz qui racontait ça très bien. Amos Oz, il disait cette phrase que j'ai mis en exergue d'un de mes livres, mais qui est vraiment pour moi une phrase clé. Amos Oz disait « Nous les Juifs sommes incapables d'être d'accord avec une phrase qui commence par nous les Juifs. » Merci à vous.